10. Bill Hodges n'est pas le seul à avoir ressenti une aversion immédiate envers la remplaçante de Becky Elmington. Le personnel soignant qui travaille à la clinique des traumas du cerveau a rebaptisé l'endroit « le bocal » et il n'a pas fallu longtemps pour que Ruth Scapelli devienne Miss Ratched en référence à Mildred Ratched, l'infirmière autoritaire et dépourvue de compassion dans « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Au bout de 3 mois, elle avait déjà fait muter 3 infirmières pour diverses petites infractions et renvoyé une aide-soignante pour avoir fumé dans un placard à fourniture. Elle avait interdit certains uniformes colorés jugés trop distrayants ou trop suggestifs. En revanche, les médecins l'apprécient. Ils la trouvent efficace et compétente. Elle est également efficace et compétente avec les patients. Mais elle est froide. Et il y a comme du mépris dans sa voix. Elle ne permettra jamais qu'on traite même le plus cataclysmiquement atteint d'entre eux de comateux, de légumes ou de mollusques, du moins en sa présence, mais elle a une certaine arrogance. « Elle connaît son boulot », avait confié une infirmière à une autre en salle de repos, peu après la prise de poste de Scapelli. « Pas de doute là-dessus, mais il lui manque quelque chose. » L'autre infirmière, 30 ans de service, était une vétérante qui avait tout vu. Elle avait réfléchi, puis prononcé un seul mot. Mais c'était le mot juste. La compassion. Scapelli ne se montre jamais froide ou méprisante quand elle accompagne Félix Babineau, le neurologue en chef, lors de ses visites quotidiennes. Et si elle le faisait, il ne le remarquerait probablement pas. Certains médecins l'ont remarqué, mais peu s'en soucient. Les faits et gestes d'êtres aussi insignifiants que les infirmières, même cadres, sont bien en deçà de leurs nobles préoccupations. C'est comme si Scapelli avait le sentiment que les patients de la clinique des traumatisés du cerveau, peu importe leurs conditions, étaient en partie responsables de leur état, et que si seulement ils faisaient plus d'efforts, ils retrouveraient forcément au moins un peu de leurs facultés. Elle fait son travail, cela dit, et dans l'ensemble, elle le fait bien. Peut-être même mieux que Becky Elmington, qui était beaucoup plus aimée. Si quelqu'un venait à le lui dire, Scapelli répondrait sans doute qu'elle n'est pas là pour qu'on l'aime. Elle est là pour s'occuper de ses patients, point barre, fin de l'histoire. Cependant, il y a un patient de longue date du bocal qu'elle déteste. Ce patient, c'est Brady Hartsfield. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu un ami ou un proche au City Center, c'est parce qu'elle pense qu'il joue la comédie, évitant ainsi le châtiment qu'il mérite tant. En règle générale, elle se tient à distance et laisse les autres membres du personnel s'occuper de lui, parce que bien souvent, rien que de le voir la met en rage pour la journée. Elle n'arrive pas à croire que le système puisse se laisser si facilement duper par cette vile créature. Elle se tient aussi à distance pour une autre raison. Elle ne se fait pas entièrement confiance lorsqu'elle se trouve dans sa chambre. À 2 reprises, elle a fait quelque chose. Le genre de choses qui, si elle venait à se savoir, pourrait conduire à son licenciement. Mais en cet après-midi de début janvier, alors que Hodges et Holly sont en train de terminer leur déjeuner, elle est attirée, comme par un câble invisible, jusqu'à la chambre 217. Pas plus tard que ce matin, elle avait été forcée d'y entrer parce que le docteur Babineau insiste pour qu'elle l'accompagne pendant ses visites. Brady est le petit protégé du neurologue. Il s'émerveille de ses progrès spectaculaires. « Il n'aurait jamais dû se réveiller de son coma », lui avait confié Babineau peu de temps après son arrivée au bocal. Babineau est un pisse-froid, mais lorsqu'il parle de Brady, il devient presque jovial. « Et regardez-le aujourd'hui, il peut faire quelques pas. Avec de l'aide, je vous le concède. Il peut manger tout seul et il peut répondre à de simples questions. » Soit verbalement, soit par signe. Il est aussi apte à se planter la fourchette dans l'œil, aurait pu ajouter Ruth Scapelli. Mais elle n'en fait rien. Et ses réponses verbales résonnent plus comme des be-be et des ga-ga à ses oreilles. Et puis, il y a la question de ses sphincters. Mettez-lui une couche et il se retient. Enlevez-lui et il urine dans son lit, réglé comme une horloge. Défèque dedans s'il peut. C'est comme s'il savait, et elle pense bien qu'il sait. Autre chose qu'il sait, Aucun doute là-dessus. C'est que Scapelli ne l'aime pas. Ce matin, alors que l'examen était terminé et que le docteur Babineau se lavait les mains dans la salle de bain attenante, Brady avait redressé la tête pour la regarder et élevé une main à hauteur de sa poitrine. Il avait replié ses doigts en un poing lâche et tremblotant. Puis, son majeur s'était lentement déroulé. D'abord, Scapelli n'en avait pas cru ses yeux. Brady Hartsfield lui faisant un doigt d'honneur. Puis, alors qu'elle entendait l'eau cesser de couler dans la salle de bain, deux boutons de sa blouse d'uniforme avaient sauté, dévoilant le centre de son solide soutien-gorge Playtex 18h Comfort Strap. Elle ne croit pas à toutes ces rumeurs qu'elle a entendues à propos de ce déchet humain. Refuse d'y croire. Mais là, il lui avait souri. Jusqu'aux oreilles. À présent, elle se dirige vers la chambre 217 au son de la musique douce qui flotte dans les couloirs. Elle porte son uniforme de rechange, le rose, qu'elle garde dans son casier et n'aime pas tellement. Elle regarde des deux côtés pour s'assurer que personne ne lui prête attention. Elle fait semblant d'étudier la fiche médicale de Brady au cas où une paire d'yeux indiscrets traînerait dans les parages, puis se glisse dans la chambre. Brady est assis dans son fauteuil près de la fenêtre, là où il est toujours assis. Il est vêtu d'une de ses quatre chemises à carreaux et d'un jean. Ses cheveux sont peignés et ses joues sont aussi lisses que des joues de bébé. Sur sa poche de poitrine, un badge proclame « J'ai été rasé par l'infirmière Barbara ». « Il vit comme Donald Trump », se dit Ruth Scapelli. « Il a tué 8 personnes et en a blessé Dieu sait combien ». Il a tenté de tuer des milliers d'adolescents lors d'un concert de rock et il est assis là, propre et rasé, à attendre que son personnel lui apporte ses repas. Il se fait masser 3 fois par semaine. Il va au spa 4 fois par semaine et passe du temps dans le jacuzzi. Comme Donald Trump? Plutôt comme un chef de clan dans un de ces riches pays pétroliers du Moyen-Orient. Et si elle disait à Babineau qu'il lui a fait un doigt d'honneur ? « Oh non, dirait-il. Non, 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 infirmière Scapelli. Ce que vous avez vu n'était qu'une contraction involontaire du muscle. Il n'est toujours pas capable du processus de réflexion nécessaire à l'exécution d'un tel geste. Et quand bien même, pourquoi vous ferait-il un doigt d'honneur ?»«
Parce que vous ne m'aimez pas, » dit-elle en se penchant, les mains posées sur sa jupe rose. « N'est-ce pas, monsieur Hartsfield ? Et nous sommes quittes. Parce que moi non plus, je ne vous aime pas. »
Il ne la regarde pas, ni ne montre le moindre signe de réaction. Il fixe seulement des yeux le parking couvert d'en face. Mais il l'entend, elle en est sûre. Et son indifférence totale vis-à-vis d'elle la rend encore plus furieuse. Quand elle parle, les gens écoutent.
Est-ce que je suis censée croire que vous avez fait craquer les boutons de ma blouse ce matin par la force de votre esprit ?
Rien.
Je ne suis pas aussi stupide. J'avais l'intention de la changer. Elle était un peu trop serrée. Vous pouvez berner des membres du personnel plus crédules, mais moi, on ne me la fait pas, monsieur Hartsfield. Tout ce dont vous êtes capable, c'est de rester assis là et de salir votre lit dès que vous en avez l'occasion.
Rien. Elle se retourne vers la porte pour s'assurer qu'elle est bien fermée, puis ôte sa main gauche de son genou et l'approche de lui.
Tous ces gens que vous avez blessés, dont certains souffrent encore, ça vous fait plaisir, hein, que ça vous fait plaisir? Et vous, vous appréciez? Pourquoi ne pas essayer pour voir?
Elle touche d'abord le doux renflement d'un téton sous la chemise, puis le pince entre le pouce et l'index. Ses ongles sont courts, mais elle plante ce qu'elle a dans la chair. Elle tourne d'abord dans un sens, puis dans l'autre.
« Ça, c'est de la douleur, monsieur Hartsfield. Vous aimez ?»
Le visage de Hartsfield reste aussi inexpressif que d'habitude, ce qui accroît encore sa fureur. Elle se penche plus près, jusqu'à ce que leur nez se touche presque. Son visage plus que jamais fermé comme un poing, ses yeux bleus exorbités derrière ses lunettes. De minuscules perles de salive bourgeonnent aux commissures de ses lèvres.
« Je pourrais faire ça à vos testicules, » murmure-t-elle. « Peut-être que je le ferai. »
Oui, elle pourrait tout à fait.
Ce n'est pas comme s'il pouvait le répéter à Babino, après tout. Il possède une cinquantaine de mots tout au plus, et peu de gens sont capables de comprendre ce qu'il arrive à baragouiner. Un peu plus de carotte devient « un peu plus quoteux », ce qui ressemble à un faux dialecte indien dans un vieux western. La seule chose qu'il parvient à dire parfaitement bien, c'est « je veux ma mère ». Et à plusieurs reprises, Scapelli a pris un malin plaisir à lui rappeler que sa mère était morte. Elle tourne et retourne le téton, dans le sens des aiguilles d'une montre, puis en sens inverse, pinçant aussi fort qu'elle peut. Et ses mains sont des mains d'infirmière, ce qui implique qu'elles ont de la force. « Vous pensez que Babino est votre joujou, mais vous vous fourrez le doigt dans l'œil. C'est vous son joujou, son cobaye. Il croit que je ne suis pas au courant à propos du traitement expérimental qu'il vous donne. Des vitamines, qu'il dit. Des vitamines, mes fesses. Je suis au courant de tout ce qui se passe ici. Il croit qu'il peut vous faire revenir jusqu'à nous, mais ça n'arrivera jamais. Vous êtes parti trop loin. Et même s'il y arrivait, vous seriez jugé et passeriez le reste de votre vie en prison. Et il n'y a pas de jacuzzi à la prison d'État de Waynesville. » Elle pince son téton si fort que les tendons de son poignet ressortent, mais il ne manifeste toujours aucun signe de sensation. Il regarde simplement le parking couvert, le visage dénué d'expression. Si elle continue, un des infirmiers est susceptible de remarquer un bleu ou une boursouflure, et ce sera mentionné sur sa fiche médicale. Elle le lâche et recule, la respiration lourde. Derrière elle, les stores vénitiens s'entrechoquent brusquement dans un grelottement d'eau. Elle sursaute et regarde autour d'elle. Quand elle se retourne vers Hartsfield, il n'est plus en train de regarder le parking. Il la regarde, elle. Ses yeux sont brillants et pénétrants. Scapelli ressent une vive étincelle de frayeur et fait un pas en arrière. « Je pourrais le signaler à Babino, » dit-elle. « Mais les médecins ont le chic pour esquiver certains problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de leurs paroles contre celles d'une infirmière, même cadre. Pourquoi me fatiguer ? Qu'il fasse autant d'expériences qu'il veut. Même Waynesville est trop bien pour vous, Monsieur Hartsfield. Peut-être qu'il va finir par vous donner quelque chose qui vous tuera. C'est tout ce que vous méritez !» Un chariot à repas gronde dans le couloir. Quelqu'un n'a pas encore déjeuné. Ruth Scapelli sursaute comme une femme s'éveillant d'un rêve et recule vers la porte, son regard passant de Hartsfield au store vénitien, maintenant silencieux, pour revenir sur Hartsfield. « Je vous laisse avec vos pensées, mais laissez-moi vous dire une dernière chose avant de partir. Si vous me refaites un doigt d'honneur, ce sera vraiment vos testicules. » La main de Brady monte de ses genoux à sa poitrine. Elle tremble, mais c'est seulement un problème de motricité. Grâce à ses 10 séances de kinésithérapie par semaine, il a récupéré au moins un peu de tonicité musculaire. Scapelli le dévisage, abasourdi, alors que le majeur se déploie et se tend vers elle, accompagné de ce sourire obscène. « Vous êtes un monstre, » dit-elle d'une voix basse. « Une aberration !» Mais elle ne s'approche plus de lui. Elle est tout à coup prise d'une peur irrationnelle de ce qui pourrait arriver si elle le faisait. 11. Tom Saubers est plus que disposé à rendre à Hodges le service qu'il lui a demandé, même si ça veut dire décaler 2 rendez-vous de cet après-midi. Il doit à Bill Hodges bien plus qu'une visite de maison vide là-haut à Ridgedale. Après tout, l'ancien inspecteur de police, avec l'aide de ses amis Holly et Jérôme, a sauvé la vie de son fils et de sa fille, et très certainement de sa femme aussi. Composant le code qui figure sur un bout de papier clippé à son dossier, Tom coupe l'alarme dans l'entrée. Alors qu'il fait visiter les pièces du bas à Hodges, leur pas résonnant dans la maison vide, il ne peut s'empêcher de réciter son baratin d'agent immobilier. « Oui, c'est plutôt loin du centre, je vous l'accorde, mais du coup, vous avez accès à tous les services de la ville. Eau, déneigement, ramassage des ordures, bus scolaires, bus municipaux, sans tout le bruit de la ville. La maison est équipée pour le câble et dépasse de loin les normes de construction standard, dit-il. C'est super, mais je suis pas là pour l'acheter. » Tom le regarde avec curiosité,
Vous êtes là pour quoi, alors ?
Hodges ne voit aucune raison de ne pas lui dire. Pour savoir si quelqu'un ne l'aurait pas utilisé pour observer la maison de l'autre côté de la rue. Il y a eu un meurtre-suicide en face, le week-end dernier.
Au 1601 ? Mon Dieu, Bill, c'est horrible !
Oui, pense Hodges, c'est horrible. Et je suis sûr que tu te demandes déjà à qui tu devrais t'adresser pour devenir l'agent immobilier de cette maison-là. Pas qu'il en tienne rigueur à Tom, qui a lui-même vécu son propre enfer à la suite du massacre du City Center. Je vois que vous n'avez plus besoin de votre canne, remarque Hodges, alors qu'il monte au premier étage.
Je m'en sers parfois le soir, surtout si le temps est pluvieux, dit Tom. Les scientifiques soutiennent que le truc des articulations plus douloureuses par temps humide est une connerie, mais moi je peux vous dire que c'est un de ces contes de bonnes femmes sur lesquels vous pouvez parier. Donc, nous avons ici la chambre principale. Vous noterez qu'elle est orientée est pour capter toute la lumière du matin. La salle de bain est agréable et spacieuse. La douche est équipée de jets massants. Et juste au bout du couloir, vous avez... Oui, c'est une belle maison. Hodges n'en attendait pas moins de Ridgedale. Mais rien n'indique que quelqu'un soit passé par là récemment.
Vous avez vu tout ce que vous vouliez voir ? Demande Tom.
Je pense, oui. Vous n'avez rien remarqué de spécial ?
Rien du tout.
Et l'alarme est de qualité. Si quelqu'un était entré par effraction...
Ouais, dit Hodges. Désolé de vous avoir fait sortir par un froid pareil.
Ne soyez pas ridicule. Je devais sortir de toute manière. Et ça m'a fait plaisir de vous voir.
Ils sortent par la porte de la cuisine, que Tom verrouille derrière lui. Même si vous avez l'air affreusement mince.
Bah, vous savez ce qu'on dit. On n'est jamais trop mince ni trop riche.
Tom, qui à la suite de ses blessures a été à la fois trop mince et trop pauvre, sourit poliment et commence à contourner la maison. Hodges le suit sur quelques pas, puis s'arrête.
« Est-ce qu'on peut regarder dans le garage ?»«
Bien sûr, mais il n'y a rien là-dedans. »«
Rien qu'un petit coup d'œil. »«
Jamais trop vigilant, hein ?»« Je comprends. Laissez-moi juste attraper la bonne clé. » Sauf qu'il n'a pas besoin de clé. La porte du garage est entrouverte de 5 cm. Les deux hommes regardent en silence la serrure endommagée et les éclats de bois brisés. Enfin, Tom dit
« Eh ben ça alors !
Le garage n'est pas protégé par le système d'alarme, j'imagine. Vous imaginez bien, il n'y a rien à protéger là-dedans. » Hodges pénètre dans une pièce rectangulaire au mur en bois nu et au sol en béton coulé. Il y a des empreintes de bottes sur le béton. Hodges voit son souffle se condenser. Et autre chose aussi. En face de la porte basculante de gauche, il y a une chaise. Quelqu'un s'est assis là pour regarder dehors. Depuis quelque temps, Hodges ressent une gêne croissante du côté gauche de l'estomac. Une gêne d'où percent des tentacules allant s'enrouler autour de ses reins. Mais cette douleur est presque une vieille amie à présent. Et pour l'instant, elle est momentanément éclipsée par l'excitation. Quelqu'un s'est assis là pour regarder le 1601, pense-t-il. Je serais prêt à parier ma ferme là-dessus, si j'en avais une. Il marche jusqu'à l'avant du garage et s'assoit à la place de l'observateur. 3 fenêtres horizontales occupent le milieu de la porte et celle de droite a été dépoussiérée. La vue donne directement sur la grande baie vitrée du salon du 1601.
« Hé, Bill !» dit Tom. « Il y a quelque chose sous la chaise. »
Hodges se penche pour regarder, même si ce mouvement rallume l'incendie dans son abdomen. Ce qu'il aperçoit, c'est un disque noir d'environ 7 cm de diamètre. Il le ramasse en le pinçant par les côtés. Estampé dessus en lettres dorées figure un seul mot. « Steiner ».
« Ça vient d'un appareil photo ?» demande Tom.
« D'une paire de jumelles. Certains services de police à gros budget utilisent des Steiner. Avec une bonne paire de Steiner, et à ce qu'il sait une mauvaise paire de Steiner, ça n'existe pas, on pouvait se retrouver directement dans le salon d'Ellerton et Stover, en supposant que les stores soient levés. Et il l'était ce matin quand lui et Holly se sont rendus chez elle. Bon sang, si les deux femmes étaient en train de regarder CNN, l'observateur aurait carrément pu lire les nouvelles défilant au bas de l'écran. Hodges n'a pas de sachet en plastique où déposer la preuve,
mais il a un petit paquet de mouchoirs dans la poche de son manteau. Il en sort deux, enveloppe délicatement le capuchon de protection dedans et le glisse dans la poche intérieure de son manteau. Il se lève de la chaise, déclenchant un nouvel élancement. Cet après-midi, la douleur est aiguë. Et repère autre chose. Quelqu'un a gravé une lettre dans le bois entre les deux portes basculantes. Peut-être avec un canif. C'est la lettre Z.